comment distinguer mémoire et imagination ? Au début de son grand livre, paru en 2000 exactement, intitulé « La mémoire, l'histoire, l'oubli », Paul Ricoeur, avant d'entamer ce qu'il appelle une navigation dans ces terres qui sont désormais aussi politiques, de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli, avec aussi l'amnistie, le pardon et tout ce qui accompagne ces enjeux dans notre vie collective, Paul Ricoeur part d'une question très très simple et qu'il emprunte à la fois à Aristote dans l'Antiquité et à Bergson dans ses contemporains, à savoir la distinction de la mémoire et de l'imagination. Qu'est-ce qui fait qu'une image qui se présente à notre esprit, par exemple celle, chez Marcel Proust, disons, celle évoquée par une petite madeleine dans un verre de thé d'un village où il était autrefois, qu'est-ce qui fait que cette image n'est justement pas seulement une imagination, n'est pas imaginaire, mais renvoie à un passé réel? Qu'est-ce qui fait qu'il y a là quelque chose qui distinguerait absolument la mémoire et l'imagination? C'est un enjeu critique, on le voit très bien, y compris pour des raisons politiques. Parce que, comme le dit Ricoeur, reprenant une définition d'Aristote, la mémoire est du passé. La mémoire concerne le passé. La vérité de la mémoire concerne son rapport à un événement qui objectivement a eu lieu. Si le souvenir qui surgit dans la mémoire de Marcel Proust, si c'était une fiction, s'il n'y avait pas eu de tasse de thé chez la tante Léonie, alors on pourrait dire, ben oui, c'était fiction. On ne sait pas si Combray a existé, et même dans l'œuvre de littérature, c'est fondamental, car toute la recherche du temps perdu s'appuie sur la vérité de la mémoire, sur la saisie d'un passé réel et même d'un passé absolu, en quelque sorte. Mais comment attester que telle image qui survient dans nos esprits est vraiment du passé et non pas une fiction? Il y a des philosophes comme David Hume qui ont pensé que tout notre esprit est une répétition d'une certaine forme de passé, des sensations que nous avons eues. Par exemple, l'idée du canard vient de toutes mes impressions des canards, et finalement, toutes mes images sont quelque chose comme des répétitions. Et alors, comment maintenir cette distinction fondamentale de la mémoire et de l'imagination, qui est aussi un critère de vérité, qui construit les cadres de notre vie individuelle et de notre histoire collective, au risque sinon, non seulement de l'imagination, mais de la critique et peut-être même de la négation, voire du négationnisme. On vous dira, vous croyez vous souvenir, mais en fait vous imaginez. Vous croyez que c'est vrai, mais en fait vous délirez. Alors, il y a une double attestation tout à fait évidente et nécessaire. C'est ici que la mémoire a besoin de l'histoire, elle a besoin d'une preuve objective, à savoir que l'attestation subjective qui nous dit c'est du passé, qui nous dit cela a eu lieu, qui nous dit j'étais là, qui nous le fait parfois même revivre et répéter, il a besoin d'une preuve objective, il a besoin de documentation. Le passé, c'est aussi la trace objective, comme la trace d'un pas sur du sable ou d'une empreinte d'un seau sur un morceau de cire. Alors, l'attestation subjective peut être parfois indéniable. Ceci, c'est du passé, ce ne l'ai pas inventé. Doit s'appuyer sur les instruments historiographiques et sur l'attestation collective et objective, au risque parfois de se voir démentir, car nous reconstruisons parfois une partie du passé. Nous croyons avoir vécu quelque chose que nous avons un peu déformé ou parfois complètement réinventé, et il faut admettre le secours de l'objectivité, le secours de la connaissance, non seulement pour la politique, mais pour notre vie, pour notre subjectivité.